France Culture.
Point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Plus de 30 milliards d'économies dans le budget 2025. Ce matin, le gouvernement annonce un effort historique tout en levant le voile sur certaines des mesures envisagées. On les détaillera dès le début de ce journal. Et puis au lendemain de la déclaration de politique générale du Premier ministre, on tâchera de comprendre la méthode Bayrou face au malaise démocratique. On en parlera avec notre invité aujourd'hui, le politiste et constitutionnaliste Olivier Roucan. Accusé par certains élèves d'accentuer la sélection et la pression scolaire, Parcoursup va-t-elle s'ouvrir davantage? Ce matin, le ministre de l'Enseignement supérieur, sans remettre en cause la plateforme d'orientation post-bac, affirme qu'elle est amenée à évoluer. Enfin, après que les États-Unis ont retiré Cuba de la liste noire des États soutenant le terrorisme, l'île communiste vient d'annoncer que 553 prisonniers allaient être libérés. Loin de déterminer si François Bayrou est à même aujourd'hui de sauver la France, sa prestation hier devant les députés aura surtout posé la question de savoir si le Premier ministre lui-même peut encore être sauvé. Et la réponse demeure encore aujourd'hui en suspens. Certes, son discours de politique générale aura permis de servir à boire et à manger à la gauche, au centre, à la droite, jusqu'à l'extrême droite et même aux gilets jaunes, mais sans pour autant enthousiasmer personne. Pis encore, les paroles professorales du Béarnais ont même plongé plus d'un dans le désarroi, de là à déclencher une nouvelle crise politique. Il y a un pas que tous ne sont pas prêts pour autant à franchir. Si les insoumis ont aussitôt déposé une motion de censure qui sera votée demain, y compris d'ailleurs par les groupes communistes et écologistes, les socialistes se retrouvent dans une position inconfortable. François Bayrou s'est résolu à revenir sur la réforme des retraites, mais tout en refusant sa suspension. Quant au Rassemblement National, il ne devrait pas voter a priori ladite motion, obérant ainsi ses chances d'aboutir. Quoi qu'il en soit, et confronté donc à la mission quasi impossible de survivre, François Bayrou s'est montré, disons, prudemment optimiste quant à l'adoption d'un budget pour l'année en cours, en annonçant des économies importantes. Laura Dulieu, bonjour.
Bonjour.
Alors, il se trouve que ce matin, la ministre chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin, a précisé les choses. Le gouvernement viserait une hausse des recettes de 21 milliards d'euros, soit peu ou prou l'équivalent de ce qu'espérait son prédécesseur, et une baisse des dépenses publiques de 32 milliards contre 40 pour le gouvernement Barnier. Cela reste malgré tout un effort d'économie historique. Dans le détail, Laura, sait-on sur quoi porteront les réductions?
Alors, on ne peut pas dire que François Bayrou se soit montré très loquace sur la façon de trouver ces plus de 50 milliards. Si l'on en croit la déclaration de politique générale du Premier ministre hier, les économies porteraient entre autres sur les agences et offices de l'action publique. Il y en a plus d'un millier et le Premier ministre veut les évaluer ou encore des économies avec en réformant l'État. Amélie de Montchalin annonce par ailleurs ce matin une baisse de 5% des budgets de tous les opérateurs de l'État, de quoi économiser 2 milliards d'euros selon la ministre des Comptes publics, qui évoque des fusions, des suppressions qui seront annoncées par les ministres concernés. Du côté des collectivités locales, l'effort qui leur est demandé sera finalement de 2 milliards 200 millions d'euros, bien moins donc que les 5 milliards prévus initialement par le gouvernement Barnier. Et côté hausse des recettes, la taxe sur les transactions financières devrait être augmentée un petit peu. Elle est aujourd'hui à 0,3%. Les sénateurs ont adopté une hausse à 0,4%. Les socialistes veulent 0,5%. On n'est pas si loin, disait hier François Bayrou devant les députés. Peu de détails sur la fiscalité des plus riches, mais le gouvernement est plutôt ouvert à une proposition de loi déposée la semaine dernière par les écologistes, un impôt plancher sur le patrimoine des ultra-riches. En gros, il s'agirait de s'assurer que les plus riches paient chaque année un impôt égal à au moins 2% de la valeur nette de leur patrimoine. 4000 contribuables seraient concernés selon la proposition de loi. Pour le reste, François Bayrou se dit contre des augmentations exponentielles d'impôts et de charges en comparant les entreprises à la poule aux œufs d'or de La Fontaine. Le Premier ministre qui vise donc un accord sur le budget à l'Assemblée nationale d'ici la fin du mois de janvier.
Merci Laura Dulieu. Alors je le disais en introduction, en choisissant de ne pas abandonner ni même suspendre la réforme des retraites, mais en acceptant d'en rediscuter les termes, François Bayrou fait le pari de la négociation en espérant que cela suffira à lui éviter la censure. Le Premier ministre parle même d'une méthode inédite et radicale. En quoi fait-il preuve ici de nouveauté par rapport à son prédécesseur? Pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Olivier Roucan, politiste, constitutionnaliste et chercheur associé au Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques. Bonjour monsieur.
Bonjour.
à mes côtés et à mes côtés pour vous interroger, Stéphane Robert, chef du service politique de la rédaction. Bonjour Stéphane.
Bonjour Thomas.
Une première question, Olivier Roucan. En quoi François Bayrou aurait-il des raisons de croire qu'il joue mieux, voire différemment, la même partition en réalité que Michel Barnier ?
En fait, différemment, je pense qu'on peut le noter du fait du style. Déjà, c'est un style qui insiste beaucoup, ça renvoie au fond sur le dialogue. Et hier, ça a pu surprendre d'ailleurs, notamment dans les réponses qui ont été faites aux différentes déclarations de groupe. On a eu un Premier ministre qui dialoguait, qui commençait même à marchander un certain nombre de points dans les réponses qu'il faisait aux uns et aux autres. Finalement, il se situe au milieu des parlementaires. Il ne joue pas la position en surplomb, et ce, dès la déclaration de politique générale. Bon, c'est conforme à sa doctrine depuis longtemps, qui insiste sur le dialogue, sur la recherche du compromis. Donc le registre est assez différent de son, voire de ses prédécesseurs, de ce point de vue. Nous pouvons remarquer qu'il a d'emblée essayé, dans le cadre de ce dialogue, de nouer des compromis, donc avant sa déclaration de politique générale, pour ouvrir le jeu. Alors sinon de sa majorité, dans tous les cas, du travail gouvernemental, il l'a d'ailleurs à nouveau rappelé hier dans les échanges qu'il y a pu y avoir, et c'est la première fois depuis 2017 que des discussions ouvertes sont entamées, par exemple avec le Parti Socialiste, même si elles n'aboutissent pas, c'est quand même une démarche différente, alors radicalement peut-être pas, mais différente de ce qui existait par le passé.
Une question de Stéphane Robert.
Et François Bayrou va tenter de rassurer justement les socialistes. C'est ce que vient d'indiquer la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, à la sortie du Conseil des ministres. Mais pour le moment, il ne les a pas convaincus et il a reçu un soutien prudent de la droite républicaine. Est-ce qu'il est devant une équation politique impossible à résoudre ?
L'équation politique, en effet, reste la même que celle qui valait pour Michel Barnier et qui a conduit à sa censure rapidement. Donc, de ce point de vue, François Bayrou est dans la même ornière, mais on peut dire que, en plus, le temps passant, les divisions, les tensions au sein même des groupes et des partis politiques augmentent. Donc, c'est un climat assez centrifuge, assez explosif, qui ne garantit en rien une régulation durable. Même si le style et les méthodes changent un peu, le contexte reste très centrifuge et très difficile à maîtriser pour un Premier ministre.
Juste après sa nomination, il avait déclaré « Enfin, les ennuis commencent ». Est-ce qu'il présume un peu trop de sa capacité à résoudre le problème politique auquel il est confronté ?
Alors, je ne suis pas sûr qu'il présume. D'ailleurs, de ce point de vue, comme Michel Barnier, on a plutôt affaire à des premiers ministres qui savent la précarité de leur rôle, de leur existence, et qui ont plutôt une posture assez modeste de ce point de vue. Encore une fois, hier on a vu un Premier ministre parfois chahuté, qui reste calme, qui répond, parfois un peu professoral, mais enfin qui ne surjoue pas, qui ne surjoue pas non plus les sachants d'ailleurs. On peut se demander parfois si c'est de la malice, mais hier on le voyait demander des réponses en direct à ses ministres qui étaient devant lui, revenant sur certains chiffres. Bref, il ne prétend pas jouer la science infuse. Alors ça fait partie de ce climat où on a un Premier ministre qui est parlementariste. Il négocie en permanence et encore, vous le disiez, avec le Parti Socialiste et jusqu'au bout certains points.
Merci Olivier Roucan, donc chercheur associé au Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous Stéphane Robert ainsi qu'à Aline Biette pour la préparation.
Depuis ce matin, les agriculteurs sont invités à élire leurs représentants syndicaux.
Oui, un scrutin qui a lieu tous les 6 ans, mais qui, après la très forte mobilisation de l'hiver dernier, aura rarement été organisé sur le terreau d'une telle colère. Alors l'un des enjeux sera de savoir si la FNSEA conservera ou non sa toute puissance face aux 4 autres organisations, étant entendu que du résultat de cette élection dépend non seulement la source de financement des syndicats, mais aussi leur capacité à peser dans les débats avec le gouvernement. En revanche, difficile de dire si un changement à la tête des chambres d'agriculture modifierait quoi que ce soit aux grandes orientations de la production agricole, d'autant que ces chambres ne sont en réalité qu'un acteur parmi d'autres. Je vous propose d'écouter Sylvain Brunier, chercheur sur les mondes agricoles au CNRS et à Sciences Po. Il répond à Catherine Pétillon.
Ce à quoi servent les chambres, notamment, leur mission historique, c'est d'employer en fait des techniciens, des conseillers. Ces conseillers, ils ont différents rôles, ils font de l'appui technique, ils font de l'animation territoriale, ils organisent des groupes d'agriculteurs, enfin, ils peuvent faire pas mal de choses à l'échelle d'un département, et donc c'est la chambre qui est leur employeur. Là, il faut pas aller trop vite, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui échappent totalement aux chambres d'agriculture. C'est vraiment pas l'unique outil de construction des modèles productifs. Il y a énormément de choses qui se passent par les très grandes coopératives. Il y a plusieurs géants qui gouvernent les différentes filières, que ce soit dans les céréales, dans le lait, etc. Ça passe par de l'appui technique qui est fait directement par les firmes privées, qu'elles soient d'industrie des pesticides, des machines, etc. Donc les chambres occupent une place dans cet écosystème, elles sont loin d'avoir une place dominante. Si des chambres devaient, par exemple, changer de couleur syndicale, ça entraînerait certes des changements, mais ces changements ils seraient minorés par le fait que toutes les autres structures en place continuent d'exister. Et notamment ces grandes structures économiques qui aujourd'hui représentent une part majeure du conseil technique et économique aux agriculteurs.
Voilà, Sylvain Brunier, donc chercheur au CNRS, il répondait à Catherine Pétillon.
Tous les lycéens, mais aussi les étudiants qui souhaiteraient se réorienter, peuvent désormais formuler leurs vœux sur Parcoursup.
Les élèves de terminale ont jusqu'au 13 mars pour adresser leurs souhaits de formation dans l'enseignement supérieur au nombre de 10 maximum et finaliser ensuite leur dossier jusqu'au 2 avril. Alors forcément, cette période est toujours synonyme de stress pour les élèves, comme leurs parents d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'ils craignent de ne pas trouver d'affectation. D'autant qu'avec cette plateforme, les candidatures font aujourd'hui l'objet d'une sélection de la part des universités. Un dispositif qu'a d'ailleurs dénoncé hier François Bayrou lors de son discours de politique générale en pointant du doigt une orientation trop précoce. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Alors les syndicats d'enseignants et étudiants qui sont contre la sélection à l'université ont eux toujours dénoncé Parcoursup et à présent plus que jamais sans doute Hakim, ils attendent des réponses plus précises notamment sur la question des moyens pour démocratiser l'accès aux études supérieures.
Oui Thomas, d'autant qu'initialement le projet de loi de finances prévoyait une baisse de 500 millions d'euros du budget du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce qui pose la question des moyens. Si François Bayrou souhaite démocratiser l'enseignement supérieur, rappelle Anne Roger, co-secrétaire nationale du CNESUP FSU, qui est le premier syndicat des enseignants-chercheurs.
On a un manque de 100 à 150 000 places dans l'enseignement supérieur. On a des étudiants qui partent majoritairement vers le privé. Donc on a une réelle réflexion à mener sur ce budget et sur le fait que investir dans l'enseignement supérieur et la recherche, ça ne doit pas être conçu comme une dépense, mais au contraire comme un investissement pour l'avenir, puisqu'on a toute la jeunesse française qui devrait être concernée par cette élévation du niveau et donc par ce passage par l'université.
De plus, en déclarant hier que les poireaux ne poussaient pas tous à la même vitesse, citant ainsi une fable de La Fontaine, dont je vous laisse juger, le Premier ministre pose aussi la question des déterminismes sociaux qu'engendrerait Parcoursup, une théorie que ne partage pas tout à fait Marie Durubella, professeure émérite en sciences de l'éducation.
Ce contexte social, il joue depuis les petites classes. Hein. Il joue dans les petites classes quand on aide son enfant à apprendre à lire. Il va jouer au niveau du choix du collège et du choix du lycée et du choix des options. Hein. Il y a eu des études sur le choix des options au lycée. Il est très marqué par le milieu social. Et quand les élèves se présentent à Parcoursup hein, avec telle ou telle option et tel niveau scolaire, ce niveau scolaire est pris en compte. Alors on peut discuter ça éventuellement. Hein, et il est entériné par Parcoursup.
Actuellement, 80% des inégalités sociales d'orientation découlent des options du type de bac obtenu par les élèves.
Merci Hakim Kasmi.
Midi et 43 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Dans un peu plus d'un mois, lorsque l'Ukraine commémorera sa troisième année de résilience à se battre encore sous les bombes de l'envahisseur, la Russie célébrera le début de sa quatrième année de propagande impérialiste et de guerre idéologique. Ce qui, malgré les morts et les destructions, n'empêche n'empêche pas certaines entreprises françaises de continuer à commercer avec l'agresseur. C'est le cas en particulier du géant du luxe LVMH. Selon le média d'investigation La Lettre, le groupe de Bernard Arnault fournirait toujours ses plus prestigieuses marques de champagne et de cognac à ses clients russes via un discret réseau de distribution parallèle. Et ce Camille Magnard, contrairement donc à ce que LVMH prétend depuis le déclenchement de la guerre sur l'interruption de ses activités en Russie.
Le désengagement de Russie n'aura en fait pas duré plus de 6 mois, selon l'enquête de La Lettre. Dès l'été 2022, voyant leurs ventes baisser à travers le monde, les dirigeants de Moët Hennessy ont voulu relancer les exportations vers la Russie, mais discrètement. Et ils ont décidé de le faire via un intermédiaire américain qui gère habituellement le réseau de vente dans les boutiques de Duty Free. Il y en aurait pour 24 000 caisses de champagne et cognac en 2022, 38 000 caisses en 2023. Le procédé n'est pas illégal puisque la directive européenne sur le sujet, publiée le 15 mars 2022, interdit seulement la vente en Russie de produits de luxe dont le prix unitaire dépasse les 300 euros. Pas illégal donc, mais le soin apporté par la filiale de LVMH à dissimuler dans ses comptes ce retour en Russie interroge pour le moins quand on sait que le groupe avait beaucoup communiqué au début de la guerre sur son retrait du pays de Vladimir Poutine et avait à l'époque vu son action prendre pas mal de valeur. LVMH, en réponse à ces révélations, assure respecter scrupuleusement les lois et les sanctions internationales et renvoie la faute, s'il y en a une, sur ses distributeurs à l'international, auprès de qui il serait impossible, nous dit-on, de vérifier le point de vente final de ses produits. Chose étonnante, les deux dirigeants de Moët Hennessy, mis en cause par l'enquête de La Lettre, ont tout récemment et discrètement été démis de leurs fonctions au sein du géant du luxe.
Voilà plus d'une semaine que la Cité des Anges, assiégée par les flammes, s'est transformée en zone de guerre.
Et les brasiers sont encore loin d'être contenus. Le dernier bilan des incendies qui ravagent Los Angeles s'élève à présent à 25 morts. Et ce désastre, l'une des catastrophes naturelles les plus dévastatrices de l'histoire de la mégapole californienne, défigurée, marquée au fer rouge, pourrait même s'aggraver dans les prochaines heures avec le renforcement annoncé de vents chauds et puissants de la force d'un ouragan et qui risque de compliquer davantage le travail sans relâche de milliers de pompiers aujourd'hui impuissants. Toujours aux États-Unis, à quelques jours de la fin officielle de son mandat, Joe Biden multiplie les décisions symboliques et c'est ainsi notamment que le président vient d'annoncer que Cuba ne figurera plus sur sa liste noire des États qui soutiennent le terrorisme, à l'instar de la Corée du Nord, de l'Iran ou de la Syrie. Et dans la foulée de cette décision surprise, eh bien la Havane a annoncé pour sa part la libération d'un demi-millier de prisonniers. Les précisions de Frédéric Seyss.
C'est l'un des derniers contre-pieds de Joe Biden envers Donald Trump. Trump, partisan d'une pression maximale contre Cuba, c'est lui qui avait replacé l'île sur cette liste noire à la fin de son premier mandat. Alors que change ce geste de Joe Biden ? La présence sur la liste noire américaine empêche un pays d'exporter des armes, lui impose des restrictions financières et permet de sanctionner ceux qui commercent avec lui. La décision américaine devrait donc alléger la pression qui pèse sur Cuba, même si les sanctions économiques, elles, demeurent. Le chef de la diplomatie cubaine a d'ailleurs salué une avancée certes positive mais limitée. En échange, la Havane s'engage à libérer 553 prisonniers, sans qu'on sache encore si parmi ces détenus figurent des manifestants arrêtés lors des protestations massives de l'été 2021. Alors cet apaisement entre les États-Unis et Cuba va-t-il se poursuivre sous Donald Trump ? Rien n'est moins sûr. Le futur ministre des Affaires étrangères, Marco Rubio, est issu d'une famille cubaine anticastriste et le conseiller à la sécurité nationale choisi par Donald Trump, Mike Waltz, prévient déjà « Ne vous faites pas d'illusions, tout ce que vient de décider Joe Biden est réversible ».
La première descente des enquêteurs début janvier avait tourné au fiasco. La seconde aura finalement été la bonne. Ce matin, à l'issue d'un nouvel assaut de plusieurs heures sur la résidence ultra protégée du président sud-coréen, Yoon Suk-yeol a fini par être délogé de sa forteresse, puis arrêté, une mesure sans précédent, à l'image de la crise politique provoquée par la tentative ratée du très impopulaire chef d'État d'imposer la loi martiale. Hier, la Cour constitutionnelle a formellement lancé un procès en destitution de l'ex-procureur superstar. La deuxième audience est prévue demain. À 48 ans, Daniel Chapeau, le nouveau président du Mozambique, a été investi ce matin dans une capitale quadrillée par les forces de l'ordre et pour cause depuis son élection marquée par de très nombreuses irrégularités. Cet obscur gouverneur provincial sans aucune expérience étatique est contesté par des mois de violentes émeutes, n'a fait aucune concession pour restaurer la stabilité. L'opposition appelle à paralyser le pays. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Grisaille au nord et soleil au sud. Quant aux températures, elles seront comprises entre 2 et 13 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Axel Dubois. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.